Ce qui vraiment a retenu l'attention des dernières heures, puis ça fascine toujours quand on parle d'espace parce que c'est particulièrement inaccessible, c'est le retour sur Terre de David Saint-Jacques qui s'est fait quand même de bonne façon. On va entendre d'ailleurs les premiers commentaires qu'il a livrés à Radio-Canada lors de son atterrissage.
On est retombé du ciel, littéralement. Tombé du ciel une fois qu'on se convainc que c'est pas dangereux, c'est fun.
Comment vous vous sentez?
Là, ben d'abord, je me sens chanceux d'être venu. Je me sens un peu nauséeux. Mais je suis ici. Ce qui me surprend le plus, c'est l'odeur du foin ici. C'est super bon.
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas senti l'odeur du foin du Kazakhstan, donc c'est la première chose qui l'a marqué. Mais franchement, il avait l'air quand même un peu déboussolé, puis on le serait probablement à moins. On va aller en parler avec Mathieu Caron, qui est ingénieur principal aux opérations de l'Agence spatiale canadienne. Monsieur Caron, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oh, ça va très bien.
Dites-moi, quand vous regardez ces images-là, vous entendez David Saint-Jacques, est-ce que c'est surprenant de voir qu'un astronaute soit déboussolé comme ça à son atterrissage?
Oh, absolument pas. C'est très, très commun. Ils ont à vivre une transition quand ils arrivent en orbite la première fois, et après ça, quand ils reviennent au sol, parce qu'on a l'effet de la gravité et un impact sur nous sur multiples facettes, comme sur nos os, nos muscles, notre système circulatoire, notre oreille interne, justement. C'est pour ça qu'on parle des fois d'avoir des nausées quand on arrive en orbite ou quand on revient. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. David se porte très bien présentement. C'est juste une période d'ajustement. Et c'est pour ça, justement, nous, qu'à l'agence, on fait beaucoup de recherches sur les effets de la microgravité sur le corps humain.
Dites-moi, qu'est-ce que le temps qui a passé dans l'espace, c'est-à-dire 6 mois, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, c'est le plus long temps pour un astronaute canadien. Est-ce que cette longueur-là va affecter sa réhabilitation, entre guillemets?
Va l'affecter, en effet. Si on regarde auparavant, les missions de la navette spatiale prenaient environ 2 semaines. Donc, même si c'était relativement court, les astronautes avaient une période d'acclimatation au départ puis au retour. 6 mois, ça fait encore plus d'impact sur le corps humain. Donc, il va avoir une période de réadaptation au sol. On va en profiter également pour prendre d'autres mesures, pour répéter des mesures scientifiques qu'on avait faites en orbite et les répéter au sol pour voir justement comment le corps s'adapte à ce changement-là. Mais c'est très, très, très important pour nous de bien comprendre ce qui se passe, parce que quand on va commencer à s'aventurer plus loin, faire des missions un petit peu plus éloignées de la Terre, ben les astronautes vont passer comme ça plusieurs mois dans l'espace avant de, par exemple, d'aller sur la planète Mars.
Vous disiez tantôt qu'il y a déjà des tests qui se sont faits à travers le temps. On ne sait pas pour David Saint-Jacques que les mesures, qu'est-ce qu'elles vont donner, mais pour les autres, est-ce qu'il y a des choses qui sortent un peu de l'ordinaire que vous avez remarquées lors de leur retour sur la Terre?
Bien, évidemment, ce qui est un petit peu intéressant, c'est que il y a un de nos chercheurs de l'Université de Calgary qui disait que passer comme 6 mois en orbite, c'est un petit peu comme vieillir de 10 ans. Si on ne fait pas attention. Donc, parce que les muscles et les os ne sont pas aussi sollicités, on n'a pas à supporter le poids, ils s'affaiblissent un petit peu. Et on fait bien attention. Les astronautes ont un régime d'exercice très, très strict. Ils s'entraînent environ 2h30 par jour pour justement aménager ces effets-là. Et quand ils reviennent au sol, les muscles et les os reprennent des forces. Mais c'est important pour nous de bien comprendre ce qui se passe. Également, le système circulatoire. On a remarqué également que les artères durcissent un petit peu comme si quelqu'un vieillissait. Le système dont on sert pour l'équilibre, même si on ferme les yeux, on sait où est en haut puis où est en bas, ça, c'est un petit peu déboussolé quand on arrive en orbite. Donc, on a d'autres expériences qui regardent cet impact-là.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous devez limiter le nombre de fois qu'un astronaute peut aller dans l'espace pour éviter du vieillissement trop accumulé?
C'est une chose qu'on regarde. Ça n'a jamais été un enjeu pour les astronautes canadiens. Souvent également, on doit considérer la radiation qui est en orbite. Donc, il y a des équipes de médecins chevronnés qui s'assurent que les astronautes ne mettront pas leur santé en jeu. Par contre, il y a un astronaute américain et un cosmonaute russe qui ont déjà passé un à bord de la station spatiale. Donc 6 mois, c'est la durée normale d'un séjour en orbite.
Quand vous faites des expériences, justement, est-ce que, vous parlez de Russes, là, est-ce que plusieurs années plus tard, on continue vraiment à mesurer à travers leur vie s'il y a d'autres impacts dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans?
Absolument. Comme par exemple, si on regarde nos astronautes canadiens, on continue à les suivre, même une fois qu'ils ont quitté le métier d'astronaute, pour justement continuer à en apprendre sur les effets des voyages dans l'espace.
Dites-moi, il y a une question qui a piqué ma curiosité. Pourquoi ils atterrissent au Kazakhstan principalement?
Ah, ben parce que c'est un lieu très, très propice pour les atterrissages. Alors, c'est des steppes, c'est pas dans des forêts. Ils peuvent suivre la trajectoire de façon très facilement. Il n'y a pas de zone habitée à éviter. Donc, c'est juste. Évidemment, et c'était sur l'ancien territoire soviétique. Donc, c'est là que le pas de tir, la piste de décollage des Soyouz se trouve également. Donc, toute l'infrastructure pour les voyages spatiaux, ils sont. On va voir dans les années à venir avec les nouvelles capsules américaines qui vont amener des astronautes, ben ça va changer l'atterrissage.
Donc, ce serait pas surprenant de voir qu'on choisisse un autre site qui est conçu spécialement pour ça?
Absolument.
OK. OK. Puis quand on voit David Saint-Jean qui va revenir Canadien, on lui avait déjà parlé en ondes justement il y a plusieurs années lors de sa sélection qui avait été un petit peu particulière, là, une espèce d'astronaute d'académie, si je me souviens bien, c'est assez spécial. Est-ce qu'il y a d'autres Canadiens actuellement qui sont en liste pour aller faire un voyage dans l'espace?
Ben absolument. On a Jeremy Hansen, par exemple, qui avait été choisi, qui faisait partie de la même sélection que David Saint-Jean. Et plus récemment, on a engagé deux nouveaux astronautes, Josh Petrie et Jenny Seide.
Et c'est des gens qui proviennent de quel type d'horizon? Je sais que pour David Saint-Jacques, entre autres, il est médecin. Je dis entre autres, c'est spécial là, parce qu'il y a également d'autres qualifications. Quel genre de parcours au préalable que vous demandez pour que quelqu'un devienne astronaute?
En général, une des voies, c'est la médecine. Il y a également l'ingénierie. Plusieurs ont des formations d'ingénieurs, donc plusieurs ont même les deux, médecine et ingénierie. Il y a également des gens qui nous parviennent des forces armées. Beaucoup de, par exemple, Jeremy Hansen et Josh sont tous des pilotes dans les forces canadiennes. Alors ça donne vraiment une idée. Donc ça prend un background scientifique, un background technique et une capacité d'apprendre. Vraiment, parce que dès qu'ils sont choisis, ben ils commencent à apprendre pendant plusieurs années justement pour être prêts pour un voyage dans l'espace.
Dites-moi, avant qu'on se quitte, M. Caron, le parcours maintenant de David Saint-Jacques, jour 2, puis après ça, c'est quoi les délais pour réintégrer une vie plus normale?
Mais ça dépend de chacun. Souvent, la réadaptation prend plusieurs mois. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a déjà des tests de prévus pour la semaine. Présentement, à court terme, là, il est dans un vol qui se dirige en direction de Houston, où sa famille l'y attend. Et on a également de nos collègues de l'Agence spatiale canadienne qui sont déplacés pour l'accueillir en grand. Et après ça, ben, il va demeurer à Houston pour quelques temps pour continuer ses tests médicaux et continuer sa réhabilitation. Puis après ça, ben, il va continuer sûrement à nous expliquer un petit peu, nous raconter ce qu'il a vécu en orbite.
Il disait la semaine passée, il y a 2 semaines, lors des dernières communications, que la chose qu'il avait le plus hâte de faire, ben, c'était de voir sa famille, ses enfants, sa femme et tout ça, est-ce qu'il va avoir quand même un certain accès à eux ou il est mis vraiment de côté pendant un certain temps?
Non, absolument. Il va avoir rapidement accès à eux, malgré le fait qu'il est en contact presque constant avec eux par des liens audiovisuels, mais non, il va pouvoir être avec eux dès son arrivée à Houston ce soir.
Mathieu Caron, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Mathieu Caron est ingénieur principal aux opérations de l'Agence spatiale canadienne pour commenter, évidemment, le retour sur Terre de David Saint-Jacques. Puis je me souviens, ça fait quand même plusieurs années qu'il avait été sélectionné. Puis c'était, je disais tantôt, Astronaute Académie, mais il avait fait une espèce de processus de sélection qu'on pouvait suivre carrément d'étape en étape. Puis je me souviens, il disait que pour être astronaute, tu peux avoir été pilote pour les Forces armées canadiennes. Il n'avait au moins un dans le processus de sélection qui avait déjà été basé à la base militaire de Bagotville comme pilote de CF-18. Fait qu'on avait un certain attrait. Puis quand David Saint-Jean avait été sélectionné, on lui avait parlé. Puis il dit, aujourd'hui, je suis astronaute, c'est le fun, mais j'ai aucune garantie que je vais aller un jour dans ma carrière d'astronaute dans l'espace. Mais finalement, il y est allé. 6 mois, quand même un parcours plus qu'impressionnant. Mais c'était de voir et d'entendre David Saint-Jacques en arrivant sur Terre. Chaque individu, chaque être humain le vit de façon différente. Tu as vu qu'il y en a qui étaient beaucoup plus droites que d'autres. Il y en a qui ont l'air d'avoir moins d'effet. Mais lui, première chose qu'il a dit, c'est « Ouais, ben moi, la gravité n'est pas mon ami. » Ça a été quand même assez tough. Les chiffres sont plus qu'impressionnants quand tu regardes la vitesse, entre autres, de cette capsule-là. On dit que ça a atteint 27 000 km/h avant l'ouverture du premier parachute pour descendre après ça jusqu'à quelques mètres par seconde. La chaleur est extrême. 2000 degrés Celsius que ça peut atteindre. Si vous avez vu les images, d'ailleurs, de la capsule Soyuz, il y a vraiment beaucoup de calcination autour de la capsule en question. Le métal est noir, 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 mais à l'intérieur, ne ressentent pas ces 2000 degrés Celsius-là de température. C'est toutes des choses extrêmement impressionnantes. Haute donnée, le voyage dure environ 3h30 entre la station spatiale et la Terre à cette vitesse-là. Puis un petit peu plus tôt, quand on parlait du dernier spectacle aérien international de Bagotville, on parlait des coûts que ça pouvait représenter de faire voler des avions comme le F-35, même les CF-18. Puis on y est allé de quelques petits chiffres qui nous ont été fournis off the record tantôt par certaines personnes. Puis aïe, ça n'a pas de bon sens. Imaginons quand vient le temps de parler du spatial. Puis tu as eu d'ailleurs un commentaire à ce sujet-là tantôt par téléphone. C'est des consommations qui sont extrêmes.
Ah oui, c'est un auditeur qui suit ça pas mal, là, les capsules, entre autres Apollo. Puis c'est quelque chose qui le fascinait beaucoup. Puis il m'expliquait qu'on pouvait parler de 15 tonnes à la seconde pour une capsule là, que 735 d'Apollo, si je me trompe pas, là, de ce que l'auditeur me disait. 15 tonnes par seconde et on parle de 90 secondes pour atteindre là, une hauteur relativement correcte pour arrêter d'utiliser les 5 réservoirs en même temps. Un seul réservoir, 2,5 tonnes par seconde. Un seul moteur, pardon.
De carburant.
Ouais, un seul moteur de carburant, 2,5 tonnes de carburant par seconde pour un seul moteur. Il y en a 5. Fait qu'on parle d'environ 15 tonnes.
C'est des missions qui sont excessivement coûteuses. Puis si tu t'arrêtes à ça, tu te dis, ouais, si on décidait d'investir ça pour essayer d'améliorer la qualité de vie de tout le monde sur la Terre, on serait peut-être bien mieux de s'occuper de nous autres avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein? Mais ça demeure extrêmement fascinant. Probablement parce que toi, moi, vous autres, on n'a pas accès à ça. Tu sais, tout le monde, un jour ou un autre, a regardé en l'air et a dit, hey, on aimerait tout ça y aller. À part Guy Laliberté qui a réussi à s'en payer un et a essayé de faire passer ça sur sa fondation pour avoir un remboursement d'impôts. Pas grand monde que c'était à sa... C'est atteignable pour lui, tu sais. Puis la question d'être astronaute, ben encore pire, parce que ça demande des qualifications carrément hors normes.